soirée prévention organisée samedi 13 août de 20h à 23h.
Et c'est à Villeneuve que ça se passe dans la région de Manosque. C'est une action de prévention et de réduction des risques en milieu festif qui est organisée par l'agglomération Durance-Luberon-Verdon agglomération ce samedi 13 août avec aussi un concert à la clé, le concert de canapes acoustiques. Et c'est en partenariat avec l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, autrement dit l'AMPA. Également partenaire le comité départemental d'éducation pour la santé du 04, c'est le CODES, et la mutuelle française, et c'est ce que nous allons développer avec nos invités. Et j'accueille tout d'abord le vice-président de la DLVA. Il est vice-président en charge de la politique de la ville, mais également en charge de la jeunesse et de la citoyenneté. Il s'agit de Gérard Auric. Bonjour Gérard Auric.
Bonjour François.
Vous êtes également maire de Valensole et l'agglomération Manosquine, c'est comme ça qu'on appelle DLVA, organise une opération de prévention. Est-ce vraiment dans la compétence d'une intercommunalité comme la DLVA?
C'est pas une obligation, mais c'est le choix que nous avons fait au niveau de la DLVA. Alors, vous parlez de l'agglomération Manosquine, ce serait sans doute quelque chose de plus visible. C'est plus simple que de dire Durance, Luberon, Verdon,
voilà.
Agglomération.
J'ai buté tout à l'heure d'ailleurs.
Mais voilà, hein, c'est pas si simple de prononcer cette dénomination. Alors, oui, c'est un choix de l'agglomération et je crois que c'est très important.
Parce que ça s'adresse à la jeunesse, parce qu'on a des drames liés à l'addiction. On va en parler tout à l'heure avec nos invités, de l'alcool, du cannabis par exemple.
Alors la jeunesse, oui, c'est notre priorité, mais pas que. Hein, ça ne se limite pas là. Mais on essaie quand même de porter nos efforts sur cette population.
Et vous avez choisi Villeneuve pour des raisons particulières ?
Non, tout simplement parce que Villeneuve est une commune qui fait partie de l'agglomération et qui regroupe un bassin de vie qui part de Manosque jusqu'à Oraison.
Il ne faudrait pas qu'on pense non plus que ce soit une soirée où on va s'ennuyer. Au contraire, il va y avoir la fiesta, il y a nos amis de Canapes Acoustiques, il y a aussi un groupe en première partie, un groupe local, et donc il va y avoir la fête et généralement, évidemment, dans la fête, il y a souvent des produits qui sont certains autorisés, puis d'autres qui sont plutôt défendus, mais qui sont utilisés beaucoup par la jeunesse, et c'est le sens de cette journée, de cette soirée.
Oui, tout à fait. Donc on est bien dans notre rôle de prévention. Et puis on sait quand on fait la fête, et puis il faut faire la fête, hein, parce qu'on n'a pas toujours des journées faciles et c'est bien de faire la fête. La difficulté, c'est que quand on est dans ces moments-là, on oublie les limites et le savoir-vivre.
Vous avez un large partenariat qui s'est dessiné sur cette opération, notamment avec l'AMPA et le CODES. Comment ça s'est passé, ce partenariat entre une intercommunalité et puis deux organismes de prévention?
Alors, j'allais dire, parce que naturellement, quand on connaît, bien entendu, les personnes qui se trouvent derrière ces sigles, c'est toujours compliqué encore, ces sigles, c'est pour simplifier quand c'est compliqué à dire dans la totalité. Alors pour moi, ça a été relativement simple parce que j'ai la chance d'avoir la directrice de l'AMPA qui habite à Valensole. Donc ça facilite les relations, mais elle parlera beaucoup mieux du comment de cette relation. Mais je crois que pour nous, c'est important effectivement de développer ces partenariats et surtout savoir ce qui se trouve derrière et savoir ce que font les gens et comment ils œuvrent.
On va lui passer la parole d'ailleurs à la Valensolaise de l'étape. Bonjour Sabine Dufort,
bonjour,
vous dirigez l'AMPA dans les Alpes de Haute-Provence.
Tout à fait.
En gros, l'émission de l'AMPA, c'est quoi?
Alors l'émission de l'AMPA, nous gérons un service financé par l'Agence régionale de santé qui est, pour faire simple, un centre de soins ambulatoire en addictologie, donc qui prend en charge les personnes majeures et mineures qui ont une problématique addictive ou leur entourage. On est aussi amené à rencontrer des gens qui n'ont pas directement problème avec une consommation ou avec un trouble comportemental addictif. On peut aussi rencontrer des gens de leur entourage uniquement.
Ça veut dire beaucoup de personnes dans les départements.
Ça veut dire une file active de près de 900 personnes annuellement. pour à peu près sur l'année 2015, près de 5500 consultations.
Et les produits ou les aspects qui sont concernés sont, ça va être l'alcool, le cannabis.
Alors, étrangement, par rapport aux chiffres nationaux, dans le département, on a un peu des chiffres un peu différents que les normes nationales, en tout cas celles de notre association, parce qu'on est une association nationale implantée sur tout le territoire national. Dans le 04, au jour d'aujourd'hui, la problématique alcool n'est plus la première raison pour laquelle les gens viennent chez nous. Un peu moins de 50% de l'ensemble des 900 personnes qui sont venues chez nous en 2015 ont une problématique alcool. Ça veut dire que pour toutes les autres addictions, ils sont plus de 50% à venir vers nous.
Quel type d'addiction ?
Le cannabis. Et ensuite, on a aussi les produits héroïne, cocaïne, crack. On a des gens qui sont sous traitement de substitution aux opiacés, détournés. Donc, qui mésusagent des traitements médicamenteux qui sont quand même très dangereux. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle dans notre jargon les addictions comportementales qui sont liées aux cyberaddictions, les jeux pathologiques, les addictions au sexe, au travail. Elles sont de tout ordre.
On va parler
et alimentaires, pardon.
On va parler des solutions, entre guillemets, qu'on peut donner tout à l'heure avec la psychologue de Lampa.
Tout à fait.
Mais une opération comme celle de Villeneuve, pour vous, c'est une opération qui a du sens ?
C'est une opération qui a au-delà du sens, qui est juste essentielle en fait. Pour rebondir un peu sur la question que vous posiez tout à l'heure sur le partenariat, ça fait quelques années maintenant que la DLVA est quand même dans ce cheminement par rapport à la prévention et notamment la prévention des addictions, et c'est quand même pas rien parce que ce sont pas tous les élus qui arrivent à avoir cette posture-là dans notre société. Il faut aussi savoir que notre association au jour le jour et les usagers qu'on rencontre combattent les représentations, on va dire, sociétales sur la problématique addictive. Avant, l'alcoolique, c'était la mauvaise personne, et s'il n'était pas bien, c'était juste de sa faute. Le toxicomane, dans les années 80, c'était à peu près la même chose. S'il avait le VIH ou une hépatite, c'était juste un peu de sa faute, parce que clairement, il n'avait qu'à pas s'injecter. L'évolution de notre discipline, et puis aussi des problématiques, a fait que notre société progressivement a commencé à axer les actions au-delà du soin dans le champ de la prévention. Ça a un coût parce que la prévention est pas forcément financée par le ministère de la Santé. Ils en financent une grande partie mais ne peuvent pas tout financer. Et un service comme le nôtre, notamment au niveau du XAPA, donc service dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi des consultations aux jeunes consommateurs, il n'y a pas beaucoup de financement pour des actions de prévention qui sont quand même qui prennent beaucoup de temps. Mais c'est juste essentiel parce que c'est transmettre un discours sur les risques que prennent les jeunes et les adultes, parce que dans les concerts, il y a des jeunes, mais pas que. Les consommations, ce sont les jeunes, mais pas que. Donc ça, c'est aussi important de signifier que ce sont les jeunes et les adultes et que les risques qu'ils prennent, ils peuvent être dangereux pour leur santé sur le moment, dans l'avenir et pour leur sécurité.
On peut rajouter aussi qu'il est quand même plus intéressant d'offrir des préservatifs plutôt que de payer des soins lorsqu'on a contracté le sida, par
exactement,
exemple. Donc il faut arriver à faire admettre ça aux personnes et surtout pas de dire qu'une addiction est une fatalité. Alors
tout
justement, je vais me tourner vers votre psychologue qui est Marie Leduc. Vous êtes psychologue à Lampa et vous avez, je suppose, beaucoup de personnes qui viennent vous voir pour vous demander de l'aide.
Oui, bonjour. Alors, effectivement, il y a des personnes qui viennent demander de l'aide. De l'aide, c'est en général quand tous ces produits consommés qui ont des effets positifs, parce que qu'on s'y accroche, quand ces effets positifs ne sont plus assez importants et qu'il y a énormément d'effets négatifs. Et dans ces cas-là, tout notre travail va consister dans l'accompagnement de ces personnes vers un changement de vie, et du coup d'assumer aussi tous les impacts de ce changement, parce que lorsque la personne change, tout son environnement change et il faut savoir réagir en fonction de ça.
Est-ce qu'il y a une distinction entre les produits licites et les produits illicites ? Quelqu'un qui vient vous voir pour une addiction à l'alcool, par exemple, et une autre personne, plus jeune ou moins jeune, peu importe, qui vient vous voir pour une addiction à une drogue ?
Alors, nous, on ne fait pas de distinction dans le sens où on s'attache à regarder les problèmes que cela peut causer au niveau physique, physiologique, au niveau du cerveau. Et on n'est pas dans une démarche de politique et de loi. De toute façon, ces personnes ont conscience de ces lois. Et je dirais même aussi qu'une personne qui a un problème avec l'alcool va finalement faire des choses qui seront de toute façon hors la loi. Donc c'est vraiment pas ce qui nous... C'est pas ce que l'on regarde.
C'est qui vous motive, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un frein chez les personnes qui se disent « mais j'ai le droit de boire ». Oui, mais t'as pas le droit de boire et de conduire, par exemple.
Tout
oui,
à fait.
T'as pas le droit de boire et d'être bourré dans la rue,
tout
par exemple. Des choses qu'on ignore. Hein,
et pour le coup, l'évolution en fait hein, de l'accompagnement et des soins apportés aux personnes qui rencontrent des problématiques addictives, c'est effectivement sur l'aspect licite ou illicite du produit, puisque là, on est dans le champ de produits psychoactifs. On se pose pas la question dans la mesure où aussi. La personne qui consomme un produit illicite, si elle sait qu'elle vient vers un service qui a déjà un jugement de valeur, qui porte un jugement de valeur, n'arrivera pas à poser la réalité de sa problématique avec le produit illicite si elle pense que nous-mêmes, en tant que professionnels, on se dit que c'est pas bien parce que c'est illicite, parce que on risque de dire à l'extérieur qu'ils consomment des produits illicites avec tout ce que ça peut impliquer, notamment au niveau des jeunes, hein, l'économie parallèle, etc. etc.
Donc il y a forcément un critère de confiance qui doit s'établir
exactement.
Entre vous et les personnes.
Exactement. C'est un point essentiel dans la prise en charge, dans l'accompagnement. Hein. Clairement, il faut que le lien existe entre le thérapeute et le patient. La relation de confiance, elle s'acquiert progressivement, petit à petit. Dans le cadre des injonctions thérapeutiques, on rencontre des jeunes qui se sont fait arrêter par les services de police et de gendarmerie. Ils ont une obligation, pour le coup, à venir nous rencontrer au minimum une fois. Ce premier rendez-vous est essentiel pour un jeune. Parce que selon le professionnel qu'il rencontrera et le discours qu'il va entendre, soit il va intégrer que peut-être ça peut être intéressant de venir voir des gens avec qui parler, notamment en matière de réduction des risques et de contrôle de la consommation plutôt que d'une abstinence à tout prix. Et là, ça sera peut-être plus facile d'engager un soin. On se rend bien compte qu'effectivement, on intervient aussi à la maison d'arrêt, donc on travaille auprès des personnes qui sont placées sous main de justice. On se rend bien compte que tout ce travail-là qui est fait en amont dans ces premiers rendez-vous sont essentiels parce qu'à un moment donné, les gens reviennent vers le soin, indépendamment de l'obligation judiciaire qui leur est faite.
Comment est-ce que ça se passe, Marie Ledu, vos entretiens, ça peut être des entretiens individuels, voire collectifs ?
Alors, ça dépend. En général, ce sont souvent des entretiens individuels, mais par exemple, dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, souvent, le jeune peut venir aussi avec ses parents ou avec des amis, parce qu'en groupe, c'est plus facile. Donc, les entretiens, il n'y a pas de règles, si vous voulez, surtout sur le premier entretien. Après, on voit, et en fonction des besoins, de la demande, on fait des entretiens en groupe ou individuel.
Vous vous adaptez en fonction de la situation, évidemment. Alors, une soirée comme celle de samedi à Villeneuve, qu'est-ce que vous allez y faire, Sabine ?
Alors, effectivement, la soirée comme samedi, on est dans un axe un petit peu différent qui est effectivement la prévention. On est là réellement pour prévenir les dommages éventuels. On n'est pas là pour leur dire de ne pas consommer. On sait, dans tous les cas, qu'ils viendront consommer probablement pour certains d'entre eux. Parce qu'effectivement, le concert, c'est ouvrir la porte à faire la fête. Souvent, faire la fête, c'est consommer, quel que soit le produit. Donc, on n'est pas là pour l'interdiction. Par contre, on est là pour accompagner cette consommation, réduire les risques au maximum, informer sur les risques, sans donner trop d'informations non plus, parce qu'on est assez vigilant aussi. Hein, il y a parfois des jeunes qui n'ont pas connaissance d'un certain nombre de techniques, de défonce, etc. Donc on ne va pas leur expliquer des choses que l'on sait nous.
Que trop d'informations risque de fasciner les jeunes.
Parfois, ça arrive. Ouais. Ou en tout cas, ouvrir la porte vers un désir d'aller expérimenter quelque chose. On est assez vigilant.
Voilà.
On est assez vigilant à tout ça aussi. Et donc, dans le cadre de cette soirée, forcément, il y aura une distribution de divers matériels, ce qu'on appelle de prévention de risque, par les opérateurs qui seront présents. Monsieur Pierre Canot, qui est animateur de prévention dans les Bouches-du-Rhône au niveau de l'ANPA du 13, et qui a une réelle expérience sur Marseille, et donc qui va nous accompagner et accompagner Mademoiselle Marie Ledu sur cette action. En lien avec le CODES, la Mutualité française.
Donc beaucoup d'informations avec du matériel donc, qui permettra d'expliquer. Alors, évidemment, je suppose des préservatifs masculins et féminins d'ailleurs.
Et pas que. Marie, peut-être, va pouvoir
alors,
vous donner un
allez-y.
Peu.
Allez-y, dites-nous, Marie, qu'est-ce qu'il va y avoir comme matériel spécifique ?
Alors, déjà, première chose, de l'eau. parce que dans tous ces produits, la chose à laquelle
j'aurais
il faut
pas pensé
vraiment
à ça,
passer,
voyez-vous, et c'est très important, de l'eau, effectivement.
C'est le premier point, s'hydrater. Voilà.
Donc d'abord, ça c'est s'hydrater, le... voilà. Effectivement.
Et après, il y aura des matériaux du genre roule ton car. Ce sont des systèmes de manière à consommer en groupe, mais avec chacun son matériel, de manière à ne pas être en risque de transmettre des maladies.
Avec un système de papier filtre particulier qui sont mis en place par le Lampa 13, c'est ça? C'est Lampa.
Alors, c'est Lampa Auvergne. Je crois que c'est l'Auvergne ou quelque chose.
Oui.
Voilà, 07.
avec vraiment d'intérêt, parce que c'est un petit outil qui sert, disons-le, à tous les fumeurs de joint,
tout
évidemment. Et dessus, il y a des petits textes qui sont intéressants. Il y a des petites pensées un peu à la façon des haïkus, mais oui. Évidemment, avec une connotation particulière. Par exemple, tu rêves encore la nuit? Ça, c'est bien, c'est une question qui est intéressante. Par exemple aussi, un pétard égale 6 heures dans la salive.
C'est une question qui se pose.
Il faut y réfléchir à ça,
tout
effectivement.
À fait.
Tu conduis après? Évidemment. Donc, il faut se poser la question et effectivement, c'est une opération de prévention. Donc là, on sent aussi qu'une association comme la vôtre peut aussi produire des outils de prévention qui sont des outils très simples et adaptés.
Qui sont des outils très simples, adaptés et qui sont prioritairement là pour favoriser la santé. Ça veut dire qu'il y a aussi un discours autour de la santé et maintenir autant que faire se peut sa santé. Individuellement.
Donc de se surveiller également et de ne pas avoir un rôle moralisateur tout en ayant quand même une
questionnement,
fonction d'information.
Un questionnement sur sa consommation en toutes circonstances.
Donc c'est une chose importante et qu'on pourra trouver donc sur le stand. Comment ça va se passer? Il y a un seul stand, Gérard Auric, qui va être installé
Oui, un seul stand qui sera face à la fête.
Face à la... Alors, c'est la place de la mairie à Villeneuve, tout le monde voit bien. Le kiosque, c'est un tout petit peu au...
Alors, c'est au-dessus. Plus qu'un kiosque, hein. ce sera un local, donc,
ouais.
Donc c'est plus que ça. Quoi.
Et donc, ce sera une belle fête avec de la musique, avec de l'ambiance. Et évidemment, on a besoin aussi en ce moment de faire la fête, mais on n'a pas besoin de se défoncer la tête quand même.
Tout
il faut
fait.
Arriver à trouver l'équilibre entre
Exactement.
Les deux. Et il faut pouvoir savoir... Quand vous vous adressez à des jeunes qui ont des addictions, le message dans ce type de manifestation, je suppose que vous avez une certaine expérience en la matière, il passe bien?
Oui, en général, il passe bien. Parce qu'effectivement, le regard porté, c'est vraiment un regard plutôt bienveillant. Hein. On est vraiment là en termes de bienveillance et d'accompagnement. Mais après, je pense que nous, on le fait en tant que professionnels, mais c'est des choses tout simples que n'importe quel citoyen pourrait faire à un moment donné quand il se retrouve dans un milieu festif. Hein.
Oui,
si on est dans
avoir,
un milieu festif.
Sauf qu'il faut avoir des connaissances.
Il faut avoir des connaissances
c'est
de base. S'il faut
cas
avoir
de
des connaissances de base, après, effectivement, le stand d'information qui sera présent samedi, c'est pour les consommateurs, mais pas que. Et ceux qui ne consomment pas et qui veulent avoir des informations justement en cette matière-là seront très bienvenus pour avoir ces informations sur quoi dire, comment faire.
Est-ce qu'il vous arrive
lorsqu'on
des fois
se trouve
d'avoir
en situation.
Des situations extrêmement dramatiques avec quelqu'un qui vous dit « je suis là au bout du rouleau, je n'en peux plus,
oui.
Je suis en délirium tremens par exemple » ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Alors la personne ne dira pas « je suis en délirium tremens » parce
non,
qu'elle sera dans une situation de vitale, problématique vitale très importante et auquel cas, oui, alors il est arrivé que des consommateurs de drogue arrivent dans un état de manque impressionnant au service. Donc ça, effectivement, on sait gérer, on le gère, on prend en charge les personnes, on les accompagne vers les services d'urgence. Nous ne sommes pas un service d'urgence. On travaille en lien avec l'ensemble des soignants sur le territoire, notamment le centre hospitalier de Digne, qui porte quand même une unité d'addictologie qui est un centre de sevrage hospitalier. On travaille avec les services hospitaliers, on travaille avec les médecins de ville, on travaille en lien avec les pharmaciens. On a en interne des médecins, des infirmières qui sont présents, des psychologues, des éducateurs. Donc tous ces personnes-là, lorsqu'on se rend compte quand on se retrouve confronté à ce type de situation, on fait en sorte de gérer la situation de crise et d'urgence. Et après, on essaye de faire en sorte avec les partenaires, notamment l'équipe de liaison du centre hospitalier, de reprendre le lien avec cette personne pour pas la laisser toute seule à la sortie, parce que le risque de rechute, il se trouve réellement à ce niveau-là. Le sortie de sevrage, il faut savoir que les gens, j'en parlais hier encore avec une personne que j'ai rencontrée, comme vous dites, on ne sait pas tout. Il faut savoir que l'alcool, on ne peut pas arrêter tout seul. Selon la quantité d'alcool que l'on consomme, il y a plus que de risque vital d'arrêter du jour au lendemain que de poursuivre sa consommation. Hein, quand vous parliez délirium tremens, etc. Et ça, il faut le savoir. Parce que souvent, on est, il faut arrêter de boire. Et parfois, il faut dire aux gens, continuez un peu, parce que le sevrage s'accompagne médicalement. Sinon, la personne risque, un peu comme l'overdose, pour les toxicomanes.
On a bien compris votre rôle d'information, en même temps ce vecteur confiance qui doit s'établir entre vous et vos interlocuteurs. Vous n'êtes pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour moraliser, mais vous êtes là pour aider les gens. Et c'est le cas de ce qui va se passer à Villeneuve samedi soir. On peut donner les coordonnées de l'ANPA 04 ?
Oui, tout à fait. Alors l'ANPA 04 intervient sur l'ensemble du territoire autant que faire se peut. Nous sommes présents sur Digne au 13 boulevard Victor Hugo, 04 92 31 55 68.
04 92 31 55 68.
Tout à fait. Nous sommes situés au 219 rue du Tribunal à Manosque, 04 92 74 62 91.
04 92 74 62
91. Nous sommes situés au CMS de Sisteron. Nous sommes accueillis au CMS de Sisteron. Peu importe le numéro de téléphone que vous faites, il y a toujours une secrétaire qui pourra vous donner un rendez-vous où que ce soit. Nous sommes situés aussi sur la commune de Fort-Calquier au sein du relais des services publics. Et nous sommes aussi à Ries, à l'hôpital local.
Voilà. Donc c'est une bonne chose que vous soyez présent sur le territoire.
Sachez aussi que tout compte fait, si là vous n'avez pas tout bien entendu des coordonnées, sur les sites Drogue Info Service, nous sommes répertoriés. Voilà, sous Google, il n'y a aucun souci, vous mettez ANPA 04 et vous nous trouverez facilement.
Donc si vous avez des tendances à l'addiction, n'hésitez pas à contacter l'ANPA qui pourra vous aider.
Ou des questions, évidemment.
Pour quelqu'un de votre famille, par exemple, pour vos enfants ou pour vos parents, ça peut arriver aussi. Donc n'hésitez pas, on n'a pas parlé d'addiction, de cyberaddiction.
Ça je vous en ai parlé tout à l'heure, tout compte fait, très succinctement, c'est ce que j'appelle aussi, ça rentre dans le champ des addictions.
Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ça, parce que c'est vrai que ça concerne des personnes de manière individuelle, c'est-à-dire qu'un jeune qui est addict à des jeux vidéo ou à des informations sur Internet, il peut vite dériver, il peut vite décrocher par rapport à la réalité. Quel est votre rôle, Marie Ledu, dans ces cas-là, vous, en tant que psychologue? Comment ça se passe?
Alors, la première chose, c'est de faire le point, parce qu'on parle depuis, on va dire, récemment, des addictions, des cyberaddictions, et parfois, on confond, joue un peu trop, vraiment une addiction, et il y a d'abord ce premier tri à faire. C'est pas si souvent que ça qu'on voit une réelle addiction incontrôlable au jeu. Donc souvent, on fait le premier tri avec les excès. Et de la même manière qu'avec les produits, c'est apprendre à mettre d'autres choses dans sa vie et pouvoir vivre avec d'autres choses et que ça devienne peut-être de nouveau quelque chose juste d'agréable, ou alors se dire j'arrive pas à contrôler et dans ces cas-là je peux plus du tout y toucher. Voilà.
Donc bien identifier le degré, j'allais dire, d'addiction.
Tout à fait, c'est l'évaluation de la personne par rapport à sa relation, notamment dans ce qui concerne les cyberaddictions, à son comportement. Mais ça vaut aussi pour les jeux. Et il faut savoir que de la même façon que pour les produits, il y a des jeux qui sont plus addictogènes que d'autres, c'est-à-dire qui vont, comme certains produits qui vont être plus addictogènes que d'autres. On parlait du tabac tout à l'heure, qui est quand même le produit le plus addictogène, c'est-à-dire 90% des personnes qui auront consommé au moins une cigarette risquent de devenir dépendants au tabac, ce qui est quand même pas rien.
Et malheureusement, les industriels le savent très bien.
Tout tout à fait. Ce qui n'est pas le cas d'autres produits, pour le coup, qu'on pense, alors oui, beaucoup plus dangereux immédiatement pour la santé. Donc là, par rapport au jeu, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus addictogènes que d'autres. Et donc, effectivement, le risque de dépendance, lorsqu'il est évalué au départ, c'est pas tout à fait le même selon aussi les différents jeux qui, pour le coup, là, c'est un petit peu la même chose comme pour le tabac où on va faire des nouvelles cigarettes et des nouvelles cigarettes et des nouvelles cigarettes. Et là, il y a des nouveaux jeux et des nouveaux jeux et tous les jours. Et ça demande réellement une réelle implication des professionnels. Je regarde Marie parce que c'est une partie qui l'intéresse beaucoup. Elle paraît assez modeste à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui la porte beaucoup. Et au niveau du service, les professionnels ont besoin aussi, eux, de s'expérimenter, de savoir de quoi ils parlent. Donc ça veut dire qu'il faut se tenir en éveil tout le temps de ces nouveautés. Et en cette matière, je peux vous dire que ça va très, très, très vite. Donc se documenter, s'abonner aux revues spécifiques. Enfin bon, ça demande beaucoup de travail, indépendamment des consultations, sur leur temps aussi personnel.
C'est une discussion passionnante avec effectivement les besoins d'identification, aussi les nuances à apporter en ce qui concerne l'habitude et puis l'addiction. Ce sont deux choses différentes, avec d'un côté un côté plutôt dangereux, l'autre un côté plutôt de distraction, et pourquoi pas. Et donc bien gérer tout ça, faire attention et faire attention où on met les pieds. Gérard Auric, la DLVA donc va faire cette opération à Villeneuve. Est-ce qu'on peut imaginer que cette opération soit transposée dans d'autres communes de la DLVA? Il y a 26 communes actuellement à la DLVA.
Oui, certainement, c'est notre objectif, c'est le but de la DLVA. L'intérêt de cette communauté de communes, c'est effectivement de travailler ensemble et de partager les bons processus et de les dupliquer, ce que nous faisons déjà avec les observatoires de la citoyenneté. Bien sûr, on pourra effectivement reproduire ce type d'action sur d'autres villages.
Avec un côté qui est à la fois un côté festif, effectivement, on va faire venir des musiciens et faire la fête, et tous les copains qui seront là, on va pouvoir boire un coup, pourquoi pas, et en même temps, il va y avoir de l'information, de dire, tu peux boire deux verres, trois verres, mais attention, après, ça commence à devenir important, tu peux pas fumer n'importe quoi, tu peux pas t'injecter n'importe quoi, il faut faire attention aussi, c'est ta vie que tu mets en danger, et c'est la vie des autres aussi, parfois, et donc ça fait partie du rôle, et en tout cas de votre délégation à DLVA, qui est une délégation sur la citoyenneté, sur la jeunesse, notamment.
Oui. Ce qui nous importe aussi, c'est le faire savoir, parce qu'on est dans un pays, on n'est pas les seuls, mais la France, c'est souvent la répression, et on s'aperçoit que à travers la répression, on ne solutionne pas tous les problèmes, et on n'a pas les moyens. Donc, on sera d'autant plus performant, on aura plus sensibilisé, informé et prévenir de tout ça. Voilà. Donc, c'est ce qui nous tient à cœur à ce jour, c'est de dire, cette partie est essentielle et c'est pourquoi.
On peut quand même regretter la timidité et la frilosité, notamment des pouvoirs publics et notamment nationaux, en ce qui concerne ces questions. Il y a eu par le passé des campagnes qui existaient, que ce soit sur le VIH, sur l'alcool, sur les drogues, etc. Ça n'existe presque plus et c'est bien dommage. C'est bien dommage et donc ça, permettez-moi de pouvoir le souligner et de le regretter. Donc,
si je peux me permettre quand même, il y a différentes campagnes, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas très très souvent, je vous l'accorde. Ceci étant, il y a eu quand même une jolie campagne qui a été réalisée dans le cadre notamment des créations des consultations aux jeunes consommateurs, notamment au niveau de l'INPES, avec des campagnes de communication sur les grandes chaînes nationales, avec des messages et des films, qui sont des petits films, courts-métrages qui sont passés sur des heures plutôt grandes écoutes, qui ont été assez, assez visionnés, notamment en fin d'année 2015. Quand même, il faut reconnaître quand même
à répéter, en tout cas, et à augmenter
tout à fait. Par contre, c'est pas suffisamment souvent, et moi je tiens quand même à souligner et à remercier grandement les élus de la DLVA pour leur sensibilité à ces questions-là, parce que assurément c'est pas tout le monde.
Alors justement, Gérard Auric, c'est partagé ce souci au sein du bureau de la DLVA?
On n'a pas mené d'études jusque-là, mais chaque fois que nous avons pris des décisions sur ce sujet, elles ont été prises à l'unanimité, donc il y a quand même un sens qui est donné, et tant mieux. Alors, je crois qu'au plus on sera nombreux à porter ce message, au plus vite on avancera sur ces sujets-là. Non, moi je crois que les élus de la DLVA, comme tous les élus, hein, même si c'est pas toujours évident, parce qu'il est plus simple de dire ben il faut punir que d'expliquer comment on peut résoudre d'autres ces problèmes d'une façon différente. Non, tout le monde est sensibilisé parce que un jour ou l'autre, on est touché directement par ce type de problème.
Eh bien, c'est une question de santé publique et puis c'est une question aussi d'intérêt général. Et qu'une intercommunalité s'y penche, ça me semble, moi, assez naturel. Merci encore, Gérard Auric, d'avoir été mon invité. Et puis merci aussi, Sabine Dufort et Marie Ledu pour l'AMPA.
Merci.
On vous retrouvera samedi soir à Villeneuve, évidemment, pour faire la fête et délivrer des informations. Et puis, on va retrouver aussi Emeline, nos amis de Canap Acoustique, évidemment, et l'ami Steve et ses collègues qui vont mettre le feu à Villeneuve, généralement, de manière très, très positive, bien sûr.
Ça, c'est certain. Et en plus, on a trouvé un morceau qui convient bien pour terminer, le morceau Alcoolique Anonyme.
Évidemment. Merci, Emeline. Bonne journée à tous. À bientôt.
Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée. À bientôt.
Tes heures de malheur, tes heures de désespoir, le bonheur, tu as cru le trouver au comptoir. Imbibé par la bibine, l'odeur de la nicotine. Au début on se marre, c'est bien pour faire la fête, puis ça part en bagarre, ça donne mal à la tête. Mais qu'importe, quand on rigole, on oublie tout ce qu'on picole. Alcoolique, anonyme, tu cherches un patronyme, tu as oublié ton nom, à trop boire de canon. Souvent, souvent soif, signe que le temps passe, tu racontes les histoires de ta vie qui trépassent. Persuadé que l'on t'écoute, dans l'alcool tu noies le doute. Tu sais plus où t'habites et au fil des saisons, l'air de rien, tu le chemin de ta maison. T'as du mal à te rappeler comment t'as fait pour rentrer. Capitaine de marine sur les flots, tu dérives, tu chaloupes à tribord, même arrimé aux rives, au fond d'un assommoir, tu te sabordes au pinard. C'est le zinc qui te soutient, car sans t'en rendre compte, tout devient quotidien. Oppressante et si tenace, cette envie de boire t'agace. S'il y a de l'eau de vie, y a de l'espoir, mais faut poser ton verre. Cadencer, dépendance mène au diable vos verres. Il faudrait ralentir ou décider d'en mourir. Alcoolique, anonyme, dans la nuit tu cherches un patronyme, tu as oublié ton nom, à trop boire de canon. Alcoolique, anonyme, dans la nuit tu cherches un patronyme, tu as oublié ton nom, à trop boire de canon. Mais ta femme t'attend chez toi, ta chopine. Alcoolique, anonyme, alcoolique, anonyme.